Les sciences sont une source inépuisable d'étonnement, de fascination, de découverte ou d'interrogation. Embarquez dès maintenant pour un nouveau voyage au cœur des sciences. Si Homo sapiens est la seule espèce actuelle représentant le genre humain, il n'en a pas toujours été ainsi. Qu'on se le dise, l'évolution de la lignée humaine est loin d'être linéaire et la science pourrait bien nous réserver encore quelques surprises. On va revenir aujourd'hui sur l'histoire mouvementée des hominidés avec vous, Jean-Philippe Gothard. Bonjour.
Bonjour.
Alors Jean-Philippe, on va commencer par un petit exercice de phylogénie et essayer de replacer l'être humain sur ce qu'on appelle le fameux buisson de l'évolution.
Oui, tout à fait. Alors, tous les êtres humains présents sur la planète, donc vous comme moi, Camille, faisons partie en fait du règne animal. Nous faisons également partie donc de l'embranchement des chordés, c'est-à-dire que nous possédons une colonne vertébrale. Nous sommes de la classe des mammalia, c'est-à-dire des mammifères. Nous possédons donc des poils et nous allaitons nos petits. Tout cela, nous sommes regroupés aussi dans l'ordre des primates, de la superfamille des hominoïdes, c'est-à-dire des singes qui n'ont pas de queue, comme les gibbons par exemple, de la famille des hominidés, donc ceux qui regroupent les grands singes, de la sous-famille des homininés, nous faisons partie du genre Homo, et de l'espèce Sapiens.
Voilà, donc Homo sapiens. On appartient à la famille des grands singes, donc comme vous le disiez, autrement appelée les hominidés. Est-ce qu'on sait à peu près à quelle période cette famille va apparaître ?
Alors, ce qu'on sait déjà, c'est que les premiers primates apparaissent il y a environ 60 millions d'années, donc en Afrique. Pour les hominidés, les grands singes, le plus ancien fossile connu se prénomme Sahelanthropus tchadensis, qu'on appelait Toumaï aussi, qui veut dire espoir de vie. Il vivait dans l'actuel Tchad il y a 7 millions d'années.
Et justement, la découverte de ces fossiles, elle est hyper importante pour les scientifiques pour comprendre l'histoire de l'évolution et notamment l'évolution humaine.
Oui, tout à fait. Les hominidés fossiles témoignent d'espèces telles que les australopithèques, les paranthropes, les kényanthropes. Toutes ces espèces qui pratiquaient donc la bipédie, qui avaient un cerveau développé. Malgré tout cela, on ne sait pas ce que sont devenues ces espèces. Elles sont toutes disparues sans que l'on sache vraiment pourquoi.
Alors, vous parliez de Toumaï, qui vient du Tchad, mais il existe aussi d'autres fossiles très célèbres. Je pense notamment à Lucy ou Littlefoot. Pourquoi ces fossiles sont aussi particuliers et ont marqué l'histoire de l'évolution humaine, ou en tout cas de la compréhension de l'évolution humaine ?
Alors, on va parler de Lucy d'abord. Alors, Lucy, c'est la plus célèbre des australopithèques, car ça a été le premier fossile relativement complet découvert donc par un Français Yves Coppens en 1974. Et à l'époque, c'est le plus vieux fossile d'hominidé jamais découvert, qui a été daté à environ 3,2 millions d'années avant nous. Et ce qui est aussi intéressant avec Lucy, c'est qu'on tenait le plus vieux fossile bipède, et c'est à partir de ce fossile que les scientifiques ont élaboré la théorie de ce qu'on a appelé l'East Side Story.
Ouais, c'est la théorie qui suppose que le berceau de l'humanité serait du coup plutôt dans l'Est africain.
Oui, tout à fait, Camille. Cette théorie, ça vise à situer géographiquement en fait l'apparition des hominidés, donc séparation entre les hominidés et les autres grands singes. Elle serait due en fait à la formation du Grand Rift africain en Afrique de l'Est, donc laissant à l'ouest là, une forêt très dense qui aurait favorisé le développement des autres grands singes tels que les gorilles et les chimpanzés, alors qu'à l'est se développe une région de savane, une région beaucoup plus sèche, qui aurait fait émerger la bipédie et donc les australopithèques.
Puis il y a de nombreux documentaires qui expliquent cette théorie-là. Les autres fossiles, Littlefoot, Toumaï, en quoi est-ce qu'ils sont particuliers ?
Alors, Littlefoot, lui, il est célèbre parce qu'il a été découvert un peu plus tard, en 1994, donc plus tardivement que Lucy. Mais c'est actuellement le fossile le plus complet d'un australopithèque. Toumaï, lui, c'est le plus vieux fossile d'hominidé jamais découvert, daté de 7 millions d'années, qui a été découvert, comme je le disais tout à l'heure, au niveau du désert du Sahel, par un autre Français, Michel Brunet. Mais au-delà de son âge, il est intéressant car il contredit un peu la théorie de l'East Side Story, Car en effet, Toumaï, qui vivait donc dans un milieu très boisé et très marécageux à l'époque, était aussi bipède. On en a la certitude maintenant. Donc ça met à mal la théorie de l'Istai Story, parce que on sait maintenant que la bipédie ne s'est pas seulement développée qu'à cause du changement de l'environnement dû à l'apparition du Grand Rift africain.
Et puis ça fait faire un bond de plus de 3,5 millions d'années à la bipédie du coup.
Tout à fait.
Ça la recule. Alors on a différents types d'hominidés, australopithèques, paranthropes, kényanthropes, etc. Est-ce qu'on sait lequel est notre ancêtre ?
Alors non, malheureusement, il nous manque beaucoup trop d'éléments et de chaînons pour bien comprendre comment on en est arrivé là. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de filiation directe des premiers hominidés à l'homme moderne. L'évolution de l'homme, c'est pas un schéma linéaire, c'est pas un australopithèque qui s'est transformé en kényanthrope, qui a donné un paranthrope, qui a donné le premier genre humain, etc. Non, on n'a pas cette filiation très, très directe, très linéaire. Il nous reste encore beaucoup de fossiles à découvrir.
Ouais, ça fait penser à cette illustration qui est célèbre et qui a d'ailleurs été beaucoup détournée, la marche du progrès, où on voit à la file indienne en fait, plusieurs figures de plus en plus humanoïdes. Si on caricature, on va en gros du chimpanzé à l'être humain moderne. Cette représentation, elle est totalement fausse.
Ah oui, cette représentation qui est très populaire, elle est effectivement totalement fausse. L'évolution humaine, comme celle de tous les êtres vivants, s'apparente plutôt à un arbre buissonnant où chaque nœud de l'arbre représente un ancêtre commun.
Et même un buisson, puisque du coup, il n'y aurait même pas de racines finalement.
Ah non, il faudrait imaginer une espèce de tronc sans racines avec des branches qui partent de tous les sens, vers le haut, vers le bas. Et à chaque embranchement, on a un ancêtre commun qui va donner naissance à de nouvelles espèces.
Est-ce que ça veut dire du coup que toutes les espèces vivantes actuelles sont au même stade de l'évolution ?
Oui, tout à fait, que ce soit je sais pas, un arbre, une bactérie, un champignon, un moustique ou un être humain. Toutes ces espèces ont passé avec succès, je dirais, les principes de l'évolution. Donc, elles ont continué à accumuler des mutations, d'être sélectionnées au cours du temps. Et donc, on pourrait dire qu'elles sont tout autant évoluées les unes que les autres.
Bulle de science. Alors, on a parlé jusqu'ici des hominidés, de nos ancêtres, et enfin, plus largement de la famille des grands singes. On n'est pas encore au genre humain, du coup.
Non, alors, la première espèce connue du genre humain va se développer en Afrique il y a 2,3 millions d'années et on l'a nommé Homo habilis, ou l'homme habile. Car en fait, c'est le premier où on atteste la fabrication d'outils. Alors, d'autres espèces humaines viendront à la suite d'Homo habilis, tels qu'Homo erectus, qui lui va maîtriser le feu, il va apprendre à faire du feu, et ce sera aussi le premier humain à sortir d'Afrique pour rejoindre l'Europe et l'Asie.
C'est le premier humain européen en fait.
Oui, tout à fait. Alors, il y a une autre espèce célèbre qui a succédé à Homo erectus, c'est l'homme de Néandertal. Alors lui, il apparaît pas en Afrique, il apparaît en Europe il y a environ 400 000 ans. Et puis, il y a 200 000 à 400 000 ans, il y a une autre espèce humaine qui, elle, apparaît en Afrique et qui va à son tour sortir d'Afrique, suivre les mêmes voies qu'Homo erectus pour se diriger vers l'Europe et l'Asie. C'est Homo sapiens, c'est nous.
Et on disait en introduction, du coup, nous sommes, nous, Homo sapiens, la seule espèce actuelle qui représente le genre humain. Si on compare les dates d'apparition des différentes espèces que vous donniez juste avant, au final, Homo sapiens n'a pas toujours été seul. Il y a eu des périodes où plusieurs espèces humaines ont cohabité ensemble.
Oui, c'est tout à fait le cas. Homo sapiens, à ses débuts, partageait la planète avec au moins 6 autres espèces du genre Homo, dont l'homme de Néandertal. Ça, on le sait grâce aux dernières études génétiques qui montrent qu'il y a eu métissage entre Homo sapiens et ces espèces disparues. Homo sapiens a également certainement croisé les descendants des premiers Homo erectus qui sont sortis d'Afrique.
On a une preuve du coup de cette cohabitation ?
Oui, on sait qu'à présent qu'Homo sapiens et Néandertal se sont reproduits entre eux, car on retrouve des gènes néandertaliens dans notre génome, donc surtout pour les Européens et les Asiatiques, car on possède au moins 2% de ces gènes néandertaliens. Alors, ce qui est encore plus étonnant, c'est que des chercheurs, ils ont découvert récemment que dans l'ADN de certaines populations qui peuplent la planète, on trouve des bouts de génome qui collent avec aucun des groupes humains archaïques qu'on connaît déjà. Donc, on ne possède vraiment aucune preuve physique de leur existence, pas le moindre bout d'os ou de dent, et pourtant, leur signature génétique montre qu'ils ont existé.
On a des espèces fantômes dans notre ADN, en fait, des espèces humaines qu'on n'a pas encore trouvées. Alors, on a parlé du passé. Est-ce qu'on peut faire des prédictions pour le futur? Par exemple, envisager qu'il y ait de nouvelles espèces humaines qui se développent à partir d'Homo sapiens?
Alors là, je dirais qu'on va alimenter, on pourrait alimenter pas mal d'œuvres de science-fiction, mais on va dire que la vérité est ailleurs. Et surtout, qu'on est dans l'inconnu. Comme on ne sait pas trop comment notre environnement va évoluer, même si on commence à avoir pas mal de prédictions, aucun scientifique à l'heure actuelle ne peut affirmer comment notre espèce va évoluer. On sait qu'elle va continuer d'évoluer, mais on ne sait pas encore comment.
Le mystère est entier. Merci Jean-Philippe pour ces échanges, une fois de plus très intéressants sur notre histoire. Quant à nous, on se retrouve le 26 février pour une prochaine chronique. Alors cette fois-ci, on remontera encore plus dans l'histoire de la vie et on essaiera de vous expliquer comment la vie est apparue justement sur Terre, les différentes théories scientifiques qui tentent d'expliquer comment elle a pu émerger sur notre planète. Retrouvez toutes les chroniques d'Altech sur le site de Radio B, radio-b.fr. À bientôt.